Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Emma Terrier. Elle est la fondatrice de l'entreprise française Les Tendances d'Emma. C'est en 2009, à la naissance de son deuxième enfant, qu'Emma a eu envie de faire un geste pour la planète sans pour autant se compliquer la vie. Ne se sentant pas prête à sauter le cap des couches lavables, elle a créé un kit de lingettes lavables à utiliser lors du change de bébé. Très vite, sa gamme s'est étendue à différents kits permettant aux consommateurs et aux consommatrices d'adopter un mode de vie plus écolo sans trop de complications. L'empathie et la bienveillance d'Emma m'ont frappée durant tout l'enregistrement. J'ai rencontré une femme simple, humaine et souriante. C'était un vrai bonheur de retracer son parcours et de mettre en lumière ses objectifs et ses valeurs auxquelles elle n'a pas dérogé en 10 ans. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Emma.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir au micro de Basilic. Ça fait très longtemps que je connais ta marque, très longtemps que je connais ta tête aussi, puisque tu naviguais sur les salons bio depuis plusieurs années où moi j'avais la chance d'aller accompagner mon papa. Donc voilà, on va parler de plein de choses, ça va être très intéressant. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Eh bien, volontiers. qui je suis? Ben, je m'appelle Emma. J'ai bientôt 46 ans et je suis maman de 3 enfants. J'ai créé il y a maintenant 11 ans, à la naissance de Tom, une entreprise qui s'appelle Les Tendances d'Emma, qui permet de remplacer tous les produits du quotidien qu'on utilise, qu'on jette habituellement, par des produits qu'on va laver, réutiliser, donc des produits durables.
Alors, il y a une gamme très étendue maintenant. On va revenir vraiment à la genèse du projet. Est-ce que cette naissance a fait suite à un changement de vie radical ou finalement tu avais toujours été plus ou moins écolo?
Non, c'est plutôt changement de vie radical. Alors en fait, avec le temps, je me rends compte que finalement, ça a toujours été présent mais différemment. C'est-à-dire qu'en fait, quand Silène est née, Silène c'est ma grande qui va avoir 14 ans. Silène est née et on est allé vers tout ce qui est autonomie. Donc, on a eu la chance d'être accompagnée par une dame qui s'appelle Catherine Dolto, qui est la fille de Françoise Dolto, et qui nous a ouvert en fait à tout ça, à cette bienveillance, à ce monde en fait que moi je connaissais pas en amont. Je viens pas du tout ni d'une famille écolo, ni d'une famille dans laquelle la bienveillance régnait. Vraiment, c'était une famille tout à fait normale entre guillemets de l'époque, avec les habitudes de l'époque, pleure pas, tous ces trucs-là, de comment ça, t'as une émotion, mais on n'est pas là pour l'accueillir, mais qui était hyper normal à l'époque. Et donc, on a commencé avec Silène, mine de rien. On est allé un peu plus loin avec des choses comme une draisienne pour lui apprendre à faire du vélo. Donc, il y a eu toujours cette approche, quelque part, d'accompagnement, d'autonomie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'autonomie, c'est vraiment... montrer à l'enfant qu'il a lui-même, à l'intérieur de lui-même, tout un tas de ressources nécessaires pour faire tout un tas de choses. Et finalement, quand on regarde ce que c'est que l'histoire des kits, ça ressemble à ça. C'est donner un outil qui permette aux gens qui se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont en capacité de remplacer tout un tas de produits très naturellement. Donc, à la fois, c'est une continuité et à la fois, c'est effectivement un changement radical parce que je le revendique à 2000%. Pour Silène, ce n'était pas du tout écolo, c'était beaucoup plus couche jetable et lingette que couche lavable et kit éco-chou. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, à la naissance de Tom, j'étais infirmière à l'époque. Je travaillais en réa, donc en alternance jour-nuit. Et comme c'était le deuxième, alors moi, je me connais quand j'accouche, je fais un gros, gros, gros baby blues. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Enfin, je savais que quand Tom allait arriver, il y aurait tout ce chamboulement que représente une naissance. Ça, je pourrais en parler pendant des heures de la naissance, mais quand on me dit ça se passe super bien, tout va bien, il y a aucun chamboulement, non, pas du tout. Une naissance, c'est quelque chose de formidable, de merveilleux, mais c'est avant tout une boule de bowling qui met toutes les quilles par terre et ensuite on refait. C'est pas grave, c'est ok, mais voilà. Donc cette notion là, à l'arrivée de Tom, je l'avais déjà. Et le truc, ça a été de dire, ok. Bon, maintenant, tu en es à ton deuxième enfant. Concrètement, là, comment tu bouges pour le monde ? C'est-à-dire que tu ne peux pas... On commençait, il y a 11 ans, à parler d'écologie un petit peu. Voilà, alors, des gens comme ton papa, qui sont là depuis 30 ans, en parlent depuis 30 ans, mais auprès du grand public, ça a commençouillé il y a 11 ans. Et effectivement, j'ai poussé cette porte-là à ce moment-là en me disant « Mais tiens, au fait, j'avais allaité Silène, j'étais allée voir la Leche League pour être accompagnée pour Tom. » Donc, c'était un peu dans la continuité. Est-ce que je passe ou non aux couches lavables ? Et c'est en fait finalement de cette question-là, d'une maman hyper normale que j'étais, que je me suis dit « Oui, mais au fait, est-ce que j'en serais capable ?» Et j'ai poussé cette porte en disant « Mais... Oh, ah non, mais c'est pas possible, quoi. C'est trop compliqué pour moi. »
Est-ce que tu as pensé une seule seconde que 11 ans plus tard, tu en serais là, dans des locaux immenses, avec des personnes qui gravitent partout autour de toi ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais au fond de toi imaginé ?
Non, jamais. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai vraiment créé la boîte et j'ai dit à Franck à l'époque, écoute, si ça marche, on part en vacances au Costa Rica. Et en fait, non, on n'est jamais parti en vacances au Costa Rica. Depuis, je ne pars plus en vacances ou presque. Non, je n'avais pas du tout imaginé. Et non, je n'avais pas imaginé du tout. Je ne l'ai pas fait pour ça, en plus. Je l'ai fait juste en me disant, écoute, voilà, ça a fonctionné pour toi. Il y a plein de gens qui sont comme toi, qui ont envie de passer à comment je fais pour remplacer des produits qu'on jette. C'est-à-dire, je suis persuadée que je ne suis pas toute seule. Et que, en fait, je suis juste une personne, mais qui est peut-être parfois un peu en avance sur une conscience collective, puisque aujourd'hui, le zéro déchet fait partie de la vie de monsieur et madame tout le monde. Enfin, on est tous, on peut plus dire aujourd'hui, 11 ans après, non, mais je suis pas au courant que, voilà, non, le coton, c'est une baignoire de déchets par femme par an, et tout le monde le sait, et maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des outils, il y a des solutions. Et à l'époque, c'était vraiment, mais en fait, si moi, ça a marché pour moi, peut-être que d'autres personnes auraient envie, en fait, finalement. Et si je peux transmettre mon expérience, et si je peux transmettre que c'est possible, et si je peux transmettre que ça marche, formidable, allons-y. Mais il n'y avait pas d'autre objectif que on verra bien. Et si finalement, non, c'était vraiment, il y avait au départ, il y avait juste une seule volonté, c'est proposer à d'autres. Montrer si c'est possible, montrer que c'est possible, partager. Et puis, je veux que ça serve. Je veux que la fabrication, elle serve. Et ça, dès le début, en fait, ça a été... je veux que ça serve à quelque chose. Je veux que la fabrication des produits serve à quelque chose. On peut pas passer au lavable avec des produits qui, finalement, servent à rien, quoi.
On va y venir, bien sûr. Quel a été le premier produit que tu as conçu, finalement ?
J'ai le kit éco-chou.
Forcément,
il était pour Tom. C'était le kit éco-chou, en fait, au tout début. Le premier produit, c'était vraiment « Ah, moi, je ne suis pas capable de passer aux couches lavables. Par contre, les lingettes, je veux bien. » Et le truc, c'était de dire « Ok, mais concrètement, je suis dans la chambre de mon fils. Le panier à linge sale est dans la salle de bain. Si je pose la pile de lingettes comme ça... Où est-ce que je mets, qu'est-ce que j'en fais quand ils sont propres, où est-ce que je les mets quand ils sont sales. Donc, ok, il faut que je m'organise. Et c'est là où, en fait, je me suis organisée avec une boîte, avec les petits carrés bébés, les gants de change, en différenciant les carrés bébés pour le pipi, les gants de change pour le caca, et avec le petit filet qui sert de poubelle, en disant, si tu veux passer au lavable, ben, il faut que ce soit aussi simple que le jetable, finalement. Donc, c'est le kit éco-chou qui a été vraiment le premier. Et comme Silène avait 2 ans et demi à l'époque, ben, on était à ce fameux âge où tu sais, je ne sais pas si tu vois le truc. Mais en fait, tu fais ton repas, tu commences, c'est nickel, tu finis, c'est Beyrouth. Alors, tu as le verre qui a été renversé. T'as, ben bon, voilà quoi. Un enfant qui commence à apprendre à manger seul. Et en fait, très vite, il y a le kit Econet qui est arrivé. Parce qu'en fait, le tissu que j'utilise, il est 4 fois plus absorbant qu'un tissu traditionnel. Donc, waouh, je vais en plus pouvoir remplacer le sopalin dans la cuisine. Et tiens, ça aussi, c'est possible, mais toujours avec le même système, avec la boîte pour les mettre, avec le filet qui sert de poubelle et qu'on met à la machine à laver. Et puis, bah, bien évidemment, derrière, le coton. Et ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est connu pour le kit Ecobel, les carrés démaquillants. Alors qu'en fait, au départ, c'était le kit éco-chou, le kit éco-net. Et le plus drôle, c'est qu'en général, les gens commencent par acheter un kit éco-bel et puis ils reviennent me voir l'année d'après, ils me disent « Ah mais moi, je voudrais un kit éco-net parce que ça fonctionne tellement bien sur le coton. » Et la troisième année, ils viennent me voir, ils me disent « Ah mais c'est celui que j'utilise le plus quoi, en fait, au quotidien dans ma vie. » Donc voilà.
C'est, mais le déclic s'opère pas forcément avec ce kit-là.
Non.
La porte d'entrée, ça va davantage être des maquillages.
Ouais. Porte d'entrée, c'est soit parce que je veux me démaquiller, parce que j'ai envie, je me rends bien compte de ce que ça représente, soit j'ai un enfant et soit je suis aux couches lavables ou pas, en fait. Mais en tout cas, dans tous les cas, je peux utiliser le kit éco-chou pour remplacer le coton, les lingettes. Donc, il y a ces 2 portes d'entrée-là, effectivement. Et puis ensuite, bloom, on passe 9 fois sur 10 sur le kit éco-net derrière. Et puis sur tout le reste de la gamme, c'est-à-dire que bon, ensuite, maintenant, on a beaucoup ouvert, mais voilà, ouais.
Au niveau des tissus et des matériaux que tu as utilisés dès le départ, comment est-ce que tu as su, toi, ce vers quoi tu avais envie d'aller ? Parce que tu le disais, tu ne connaissais pas nécessairement ce milieu-là, tu étais infirmière. Comment est-ce que tu as su faire le bon choix et opter pour le tissu qui serait parfaitement adapté ?
Alors, en fait, je n'ai pas fait de choix. Au tout début, le tissu, c'était le bambou pour sa douceur. Et en fait, plus le temps passe et plus je dis aux gens, ce n'est pas une question de tissu. C'est une question de vous, qu'est-ce qui vous convient. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on n'a jamais fait de choix. On a aujourd'hui le bambou, on a aujourd'hui le coton bio, on a aujourd'hui l'eucalyptus. On a nos préférences, c'est certain. Mais on n'a jamais fait de choix parce qu'on a toujours dit aux gens... On est une diversité sur Terre. Et on n'est pas là pour vous dire ce tissu-là, il est formidable. C'est-à-dire, en 11 ans, s'il y a un truc auquel je suis arrivée, c'est de dire, il n'y a pas un tissu formidable. Ils ont tous des avantages, tous des inconvénients. Vous en avez qui vont être beaucoup plus naturels, il y en a d'autres qui sont artificiels, il y en a qui vont être moins impactants dans la culture, d'autres plus impactants dans la culture. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Dans tous les cas, et... ce que je dis souvent, même si c'était en poil de cul-de-sac, si déjà vous arrêtez de balancer à la poubelle du coton, des lingettes, du sopalin, vous faites un geste pour la planète. Et ça, c'est vraiment, il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, ce n'est pas de dire il y a un tissu merveilleux, fantastique et formidable. C'est faux. Plus on va dans le détail, plus il y a toujours un truc à redire quelque part. Par contre, si déjà vous arrêtez de balancer du coton, là, on est bon. Et déjà, on est meilleur qu'hier où on balançait du coton.
Oui, donc c'est vraiment l'idée juste d'accompagner les gens, en fait.
Oui, d'accompagner les gens en leur disant, on n'est pas là pour vous juger. Par exemple, on est passé sur le bambou qui est d'abord... Enfin, il faut le savoir, le bambou, c'est une viscose. Ça veut dire process de transformation artificielle. Et en fait, quand on est allé à Marjolaine, ils nous ont dit, non mais ça va pas, nous, on ne veut pas de viscose chez nous. Et en fait, j'ai dit, mais... En fait, c'est hyper doux, c'est hyper agréable, mais pourquoi vous voulez pas ? C'est des carrés démaquillés en lavable, ça remplace le coton, mais je comprends pas. Et ils nous ont dit, mais en fait, nous, notre combat à nous, c'est l'agriculture biologique. On peut pas le faire avec une viscose. Et on comprend bien que votre tissu, il est... Enfin, dans l'utilisation que vous en faites, il permet d'éviter de balancer du coton. Mais comment nous, qui militons pour l'agriculture biologique, on peut vous dire « Ah ok, pour le carré démaquillant, mais par contre, on va interdire à un mec qui vient avec un t-shirt en bambou. » C'est pas possible. Donc, c'est pour Marjolaine qu'on a fait le coton bio. D'accord. Alors que le contact, moi, je trouve que... Enfin, faudra... Je vais te montrer les traits. Mais le contact, je trouve beaucoup plus doux avec du bambou, avec de l'eucalyptus. Et au départ, je me rappelle, la première année à Marjolaine, on avait une éponge de coton bio, mais c'était... Oh, elle était hyper rugueuse, tu vois. Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible, mais les gens, ils vont avoir mal. Et les gens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais vous avez que ça. Oui, mais j'ai pas le droit de vendre autre chose. Et je l'entends, je le respecte. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est finalement de dire, sur Terre, on a tous une diversité. On a tous des croyances. On a tous des revendications. On a tous... Et tout est OK. On n'est pas là pour le juger. On est là pour dire aux gens, tenez, nous, on va vous donner quelque chose qui vous permettra de remplacer des produits que vous jetez dans le quotidien. Mais on n'est pas du tout un militant d'un tissu ou d'un autre. On est vraiment là en disant, la première des choses, c'est le contact peau doit vous correspondre. Le tissu doit correspondre aux produits que vous utilisez pour vous démaquiller. Parce que par contre, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que si vous venez acheter un kit Ecobel et que c'est pas la bonne matière et que finalement vous le mettez dans un tiroir en allant racheter du coton jetable, ah ben là, mais non, c'est pas possible en fait. Et je crois que c'est ça qui a fait le succès des tendances d'Emma, c'est qu'on est tellement dans allez-y, essayez. On a d'ailleurs sur le site, on a un kit éco-test qui permet d'avoir les trois matières et de dire aux gens allez-y, essayez, parce que vous allez essayer un carré démaquillant de chaque pour pouvoir ensuite aller acheter votre kit qui vous correspondra dans la bonne matière. Et le kit éco-test, en fait, on le rembourse pour ça, en disant c'est un avoir à valoir sur votre kit, parce qu'avant d'investir 25 €, ben, on doit respecter le fait que si vous investissez, c'est pour l'utiliser. On a toujours dit aux gens, ben, essayez, puis vous verrez vous-même, en fait. Et c'est ça ce qui a fait notre succès, c'est qu'on n'a jamais cherché à dire « vous devez ». On a dit ben, « écoutez, pour nous ça marche, pour plein de gens ça marche ». Et tout le monde témoigne que « ah ben oui, effectivement, j'ai un kit, c'est tellement simple à utiliser que ben, je ne vois même pas pourquoi je retournerai au coton jetable, je ne vois même pas pourquoi je retournerai au sopalin, je ne vois même pas pourquoi ». Et c'est ça qui est génial. Quelque part, je m'éclate à... Quand les gens viennent à la maison, quand j'ai des potes qui viennent à la maison, parce qu'ils ne sont pas tous écolos loin de là, ils viennent et quand ils me disent « t'as du sopalin ?» Il y en a toujours un des trois, des loulous, parce que maintenant j'en ai trois, il y a Bastien qui est venu. Il y a toujours un des trois qui dit « ah non, ici on a des débarbouillettes et on a le kit éconette. » Et c'est quoi ton truc ?« Bah, t'en bouge pas, je vais te montrer. » Et « ah mais c'est bien !»« Ah mais ouais, mais t'as trouvé ça où ?»« Ouais, écoute, je vais t'expliquer. » Et en fait, c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que en fait, les gens ne l'achètent pas parce qu'ils ont vu et que c'est en général, les gens vont chez quelqu'un qui l'ont. Ah bah oui, effectivement.
Pour tous ces gestes du quotidien, je pense que c'est très parlant si tu vois des proches ou des amis les faire et que tu vois qu'eux ont réussi à changer leurs habitudes. Tu te dis, bon bah moi aussi, je peux le faire, c'est pas insurmontable.
C'est clair.
La clé et le succès des tendances d'Emma, ça repose aussi sur ce bouche à oreille, en fait.
Ouais.
Moi, on m'en a parlé des dizaines de fois, j'en ai parlé autour de moi des dizaines de fois, et c'est la réussite d'un bon produit, en fait.
Oui, et je crois que justement, on n'a jamais cherché ni à le marketer, ni à faire quoi que ce soit, en fait, et c'est, ouais, je suis un peu d'accord. C'est-à-dire, ce que je dis souvent aux gens par rapport à Bea Johnson, c'est, moi, je la trouve juste fabuleuse, quoi. Enfin, je suis estomaquée, mais la gonzesse, elle y passe sa vie, quoi. Enfin...
Ah bah oui.
Je trouve ça génial. Mais en fait, il y a une Bea Johnson qui réussit à faire un bocal de déchets par an à 4. J'ai jamais eu la prétention d'être une Bea Johnson. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, en 5 ans, j'ai divisé par 2 mes poubelles, voire même pour aujourd'hui, même plus. Et en fait, oh, je suis loin du bocal de déchets. Hein. Mais je me dis, waouh, si on est 60 millions, juste à diviser nos poubelles par deux, par 3 ou par 4, mais on est des warriors toutes catégories, quoi. Et je crois beaucoup au collectif. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais sentie exemplaire et que en fait, j'ai toujours dit aux gens, ben, si ça a marché pour moi, franchement, vu là d'où je viens, ça ne peut que marcher pour vous. Et c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire, ben, écoutez, essayez, puis vous verrez bien si ça fonctionne pour nous, ça a été une porte ouverte. C'est aussi ça, c'est qu'en fait, en montrant aux gens qui réussissent, on leur montre aussi qu'ils peuvent aller eux-mêmes plus loin. Et aujourd'hui, il y a plein de clients du début qui nous disent « Mais vous avez été mon premier geste, quoi !» Et grâce à vous, en fait, je suis allée encore plus loin dans ma démarche. Et effectivement, les gens, on n'a pas tous envie de passer aux toilettes en sûre. C'est super pour ceux qui y arrivent. Moi, je rêve de trucs tout bêtes, hein, d'arriver à récupérer toute l'eau de pluie de ma maison, sauf que la réalité, c'est que... ben, c'est une vieille maison de ville dans un petit bled où c'est hyper compliqué à faire et où voilà et d'autres vont réussir, d'autres vont avoir des maisons hyper écolo, d'autres... mais le truc c'est vraiment de dire ben, allez-y à votre rythme, mais nous on vous fait confiance parce qu'on va vous montrer que c'est possible, on va vous montrer que c'est possible, que vous allez pouvoir y arriver, et grâce à ça en fait on vous fait confiance, vous irez forcément encore un peu plus loin.
Tu le disais, vous proposez différents tissus pour respecter la diversité ouais. des profils, des épidermes. Mais finalement, tu respectes aussi la diversité des profils humains avec les tendances d'Emma. Puisque depuis le début, ou en tout cas quasiment le début, tu as un système quand même de fonctionnement un peu particulier. Tu t'appuies sur le travail de personnes en réinsertion. Ouais. Tu ne l'as pas nécessairement mis en avant, en tout cas pas au début. C'était une info, moi je me souviens sur les salons, ce n'était pas une info qui était mise en avant vraiment. Et ça a mis du temps avant que...
On l'a toujours écrit en fait.
Ouais,
c'est... On l'a toujours écrit sur les packaging, on l'a toujours revendiqué.
Mais ça n'a jamais été ton argument.
Mais en fait, c'était tellement... comment dire ? Ça a juste fait partie du départ. C'est-à-dire que dès le départ, c'est ce que je te disais, il fallait que ça ait du sens, il fallait que ça serve à quelque chose. Et aujourd'hui, on est hyper fiers, on a envie de le dire parce que c'est le résultat. Mais ce n'est pas le résultat d'un truc qu'on a annoncé, c'est le résultat d'un truc qu'on fait depuis 10 ans qui permet de dire à tous ceux qui nous accompagnent depuis 10 ans, voilà à quoi vous avez participé, vous aussi, à votre niveau. C'est-à-dire, soyez rassurés, quoi. On est encore une petite entreprise avec un actionnariat totalement privé, sans fonds d'investissement. Sans... Et vous avez permis à ce que, typiquement, l'atelier aujourd'hui, le fait qu'on lance cet atelier-là, il est complètement mis en parallèle avec les tendances Emma, et c'est grâce aux tendances Emma, et c'est, enfin, c'est cette donc effectivement oui, aujourd'hui il faut l'expliquer parce que ça fait partie des tendances Emma, mais c'est plus ouais, voilà le résultat de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans et où effectivement on n'a pas forcément communiqué dessus. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour les auditeurs et les auditrices, parce que pour ceux qui connaissent pas les tendances Emma, ils vont peut-être pas comprendre de quoi on parle.
Alors, en fait, les tendances d'Emma ont commencé dans une gendarmerie, dans un petit village de Lyon qui s'appelle, vous aurez tous les détails, qui s'appelle Flogny-la-Chapelle. Et j'ai commencé tout simplement en prenant une surjeteuse, un rouleau de tissu et en coupant, cousant moi-même. Donc, au bout d'un moment, entre ma vie de maman, ma vie d'infirmière, ma vie de c'était pas encore chef d'entreprise, c'était auto-entrepreneur à l'époque. Il a fallu... Ça a commencé. Il y a des gens qui m'ont accompagné dès le début, qui ont été là, qui ont cru tout de suite au projet. Et je les garde en tête dans la région. Par exemple, il y a eu dès le début Greenwiz, il y a eu dès le début Satoriz, il y a eu et quand un Greenwiz ou un Satoriz nous dit « Alors, il faudrait passer au Gen Code et il faudrait passer... » Vous êtes sûr là
Comment
okay,
ça fait
bon, bah, écoutez. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire toi-même. Et en fait, c'est comme ça que ça a fonctionné au début. Je suis allée frapper au centre de détention qui était à côté. Donc là, je pourrais même chose en parler pendant à peu près 4 heures. Pourquoi un centre de détention, pas une maison d'arrêt voilà, il y a tout un tas de choix qui ont été faits parce que je vivais au quotidien ce que c'était en fait. Ce que c'était que le centre de détention avant, ce que c'était que le centre de détention après, puisque ben, j'étais mariée à quelqu'un qui qui gérait l'après, qui gérait l'avant, qui gérait parfois le pendant. Et moi, j'avais fait un stage quand j'étais infirmière à Fleury-Mérogis. Donc là, j'avais vu ce que c'était qu'une maison d'arrêt, au contraire d'un centre de détention. Donc c'est tous ces trucs-là qui ont fait que tout a une raison. Donc voilà. Et je suis allée frapper à la porte du centre de détention. Je leur ai dit, ben, je ne sais pas ce que ça va donner, en fait. Moi, là, aujourd'hui, ça m'occupe, mais pas tellement. Enfin, voilà. Ça vous dit ou ça ne vous dit pas? Et en fait, je m'en rappelle encore, j'ai retrouvé la photo l'autre jour. C'était Sylvain, qui est venu à la maison et qui, aujourd'hui, j'ai encore de ses nouvelles, il bosse sur la gamme crèche de l'entreprise, qui est venu me voir et qui m'a dit, ben, je vais t'accompagner, on va voir comment on peut faire, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et on y est allé comme ça, en fait, sans aucun objectif, sans rien, sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, juste avec des bonnes volontés qui m'ont dit « Ouais, nous, on a envie de participer à ton projet parce qu'on le trouve hyper beau, quoi. » Et go. Et en fait, bah, ça veut dire accompagner au quotidien, au quotidien, au quotidien. Ça veut dire monter l'atelier, ça veut dire voir comment on fait, ça veut dire... voir comment ça augmente, voir comment... Ben, voilà. Et c'est 10 ans de travail avec, avec ce centre de détention qui a toujours été le même. Ça aussi, je le revendique. Voilà. Et qui fait que depuis le début... Et j'ai dit, mais moi, je veux le noter. Enfin, je veux dire, je sais à quoi ça sert, le travail en prison. C'est pas n'importe quoi. C'est une vraie force pour la sortie. C'est un vrai changement. Enfin, quand on a passé 3 ans à pas se lever le matin... On ne peut pas dire aux gens, allez-y, quoi, sortez, puis réinsérez-vous. Enfin, la sortie, elle se prépare en centre de détention, en fait. Elle ne se prépare pas une fois qu'on est sorti. Et tout ce travail-là, je savais ce que... Enfin, voilà, j'avais une petite notion de ce que ça signifiait. Donc, on a bossé pendant... Enfin, voilà, ça fait 10 ans, ça continue.
Et aujourd'hui... Voilà. Le centre de détention confectionne toujours une partie des
produits. Toujours une partie des produits, ouais.
Des tendances d'Emma. Que les tendances d'Emma pour le centre de détention.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Oui. Et ici, l'atelier, c'est un petit peu différent.
Alors en fait, ouais, c'est un petit peu différent parce que depuis le début, en fait, on travaillait avec des détenus à leur réinsertion. Et on a dit, mais en fait, il n'y a pas que les détenus à réinsérer, quoi. Et on a dit, mais si en fait, on allait plus loin. Et en fait, alors ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'en 2018, on a connu mais une demande juste incroyable et on n'arrivait plus à répondre à la demande. Et on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va vers un deuxième centre de détention ? Donc on a commencé à regarder. Et ça aussi, je n'ai pas trouvé ici... ce que j'avais là-bas et ce qu'on a toujours là-bas avec Christine, avec Lionel, enfin voilà, tous ces gens qui sont vraiment des personnes. Et je suis allée voir les ateliers traditionnels et j'ai trouvé des gens qui m'ont regardé très haut en me disant, mais nous on fait de la haute couture en France, qu'est-ce que c'est que vos produits, ça nous intéresse pas. J'ai dit, ben, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin, en fait, dans l'insertion ? Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Samy, qui est juste dans la région, et qui m'a dit, mais tu sais, moi, il y a 10 ans, j'ai créé un atelier d'insertion. Est-ce que tu veux que je t'en parle ? Et j'ai fait, waouh, mais c'est trop bien ton truc, j'adore. Et donc, là, j'ai découvert, vraiment, j'ai poussé la porte d'un autre monde qui s'appelle l'insertion par l'activité économique. Et qui est de faire un pari complètement fou, qui est de dire, voilà, on va passer un contrat pendant 2 ans avec des gens pour les embaucher dans notre atelier et les accompagner vers la sortie.
Des gens qui sortent pas nécessairement de détention.
Ah, pas du tout. Alors, pas que. Ils peuvent, ils pourraient, il n'y a aucun problème. Ça fait partie aussi des projets possibles. C'est-à-dire, et aujourd'hui, c'est des pistes à explorer. C'est-à-dire qu'il y a même des postes d'insertion directement en centre de détention. Donc d'accord. Ça aussi, c'est peut-être des projets que je te dirai d'ici.
fera un podcast.
On fera un podcast, ouh, génial. Mais non, on peut avoir des gens avec des bracelets électroniques, on peut avoir, enfin, voilà. D'une manière générale, c'est des gens qui nous sont adressés par la NPE et qui sont des gens qui ont vraiment des difficultés pour retrouver un emploi dans le monde conventionnel. Mmh. Voilà. Donc, soit des gens qui ne sont pas du tout diplômés, soit des gens qui ont un handicap, voilà, une barrière de la langue, une raison, en tout cas, qui fait qu'il faut les accompagner différemment pour retourner vers l'emploi conventionnel.
Et au sein de cet atelier, aujourd'hui, combien est-ce que tu réinsères de personnes ? Combien de personnes travaillent ?
Pour l'instant, on a 8 postes et là, on a 7 personnes.
Ils conçoivent les produits des tendances d'Emma, mais pas que.
L'objectif, c'est d'arriver aussi à permettre à d'autres qui nous sollicitent très, très, très souvent en nous disant « mais moi aussi, je voudrais faire mes produits à ma propre marque, moi aussi », et de les accompagner là-dedans. En parallèle de ça, il y a tout le tissu local, des entreprises locales, et je pense à une en particulier qui nous dit « mais moi, je n'ai pas assez de personnes pour répondre aux demandes qui sont... » notamment lié à la crise qu'on a. Le Made in France, c'est quelque chose que les gens commencent à demander, même très, 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 très haut. Donc, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'entreprises. C'est ça qui est assez génial, en fait, avec le Covid. C'est qu'on s'aperçoit que même des très grands groupes se rendent compte que oui, on ne peut plus faire fabriquer n'importe comment, dans n'importe quelles conditions au bout du monde.
Donc, Anne-Sophie, vous travaillez, vous aussi, aux côtés d'Emma. Et on va parler un petit peu avec vous de votre rôle au quotidien, puisque vous êtes aussi là pour accompagner ces personnes en réinsertion. Peut-être que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter.
Donc moi, je suis Anne-Sophie Chaud. Donc je suis embauchée chez Emma Seconde Chance, l'entreprise d'insertion créée par Emma il y a un an maintenant, en octobre 2019. Donc moi, je suis arrivée dans la structure au mois de mars 2020 en tant que CIP, donc chargée d'insertion professionnelle. Une chargée d'insertion professionnelle, en fait, c'est une personne qui est là pour accompagner les personnes en insertion, pour les aider à lever les freins à l'embauche. Pourquoi, en fait ? Ils sont arrivés chez nous parce qu'ils avaient des freins. L'idée, c'est de les accompagner, de lever ces freins ensemble, en les aiguillant par les partenaires extérieurs, des fois, ou moi, dans certains domaines.
Avec en ligne de mire qu'à la fin de leurs 2 ans ici, ils puissent trouver un emploi pérenne.
Alors en fait, un salarié d'insertion, c'est une personne qui arrive dans une entreprise pour un maximum de 2 ans. Donc en fait, ils arrivent chez nous pendant minimum 4 mois. Ces 4 mois, c'est quoi ? C'est qu'en gros, c'est simple, au bout de 4 mois, vous ouvrez vos droits à chômage. Donc c'est pour aussi leur permettre que si la structure ne leur convenait pas, ou si nous, on n'arrivait pas à les accompagner, on puisse mettre fin, mais qu'ils ne se retrouvent pas sans rien. Donc en fait, l'idée, c'est que dans un premier temps, on travaille les premiers outils de l'emploi, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-faire, parce que c'est aussi pour beaucoup leur premier frein, parce que on peut avoir des personnes qui arrivent d'origine étrangère, donc qui n'ont pas les mêmes codes que nous pour le monde du travail, ou pour d'autres, ça va être des personnes qui n'ont pas travaillé pendant beaucoup d'années, donc ils ont perdu ces automatismes, le respect des horaires, le respect des consignes, la bienveillance envers son collègue, etc. Donc ça va être le premier travail qu'on fait avec eux. Et une fois qu'on a abordé ces points et qu'on les a travaillés, qu'ils ont passé le cap, on va aborder d'autres choses qui, là, ça va être trouver un projet professionnel. Parce qu'il faut qu'au bout de 2 ans, ils puissent être embauchables ailleurs que chez nous.
Donc là, ici, les projets professionnels s'orientent davantage vers la couture ?
Pas du tout, pas spécialement. En fait, ça va vraiment... En fait, il faut se dire qu'une entreprise d'insertion n'est pas là pour former la personne à un métier derrière. Elle est là pour lui donner un métier qui va lui permettre d'avoir une rémunération, comme vous et comme moi. Sauf que derrière, ils n'ont pas tous envie de faire de la couture. Ce n'est pas non plus un métier qui est encore hyper en tension actuellement. On fabrique beaucoup à l'étranger, malheureusement, mais c'est le cas. Donc l'idée, c'est que ce métier, ça leur donne des compétences. Voilà, nous, on les a formés à la couture, on les a formés aux expéditions, on les a formés au conditionnement. Ça, c'est leur métier de base. Par contre, pour certains, ils vont se diriger. Nous, on a la chance d'avoir Hermès et Le Tanneur qui sont sur le secteur. Donc potentiellement sur ces entreprises-là, mais pour d'autres, absolument pas. Ils aiment peut-être même pas faire de la couture. Ils le font juste comme c'est une étape. Voilà.
Une étape dans la réinsertion. Et donc, depuis la création de cette deuxième entreprise, il y a un an, quelle, quelle conclusion, ou en tout cas, qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui ? Bon, on a traversé les périodes de confinement, c'était pas évident, mais vous, depuis votre arrivée en mars dernier, qu'est-ce que vous observez ?
Alors, c'est vrai que le contexte était un peu exceptionnel, c'est-à-dire que ça a pu mettre un frein pour certaines personnes. On a certaines salariées qui ont dû faire garde d'enfants, donc forcément, leur accompagnement, il s'arrête pendant cette période-là. Mais en gros, ce qui se dessine, c'est qu'on a quand même déjà, on a une personne qui aime la couture. Donc lui, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner pour qu'il aille travailler dans de la couture. Donc on va tenter les tests de chez Hermès. Pour une autre personne, c'est pareil. Elle aime la couture, donc on va se diriger là-dedans. Mais il y en a d'autres. On va avoir une personne qui fait du conditionnement, qui elle va peut-être partir plutôt vers des métiers, peut-être dans l'industrie. Et d'autres personnes qui vont peut-être aller... Après, ce qu'il faut savoir, c'est que notre idée, c'est qu'il faut qu'ils établissent eux-mêmes un projet professionnel, mais il faut aussi qu'ils soient réels. C'est-à-dire que moi, j'aime la chanson. Enfin, je dirais n'importe quoi. J'aime chanter, je voudrais devenir chanteuse, mais c'est difficile de percer dans la chanson. Donc, il faut qu'ils aient toujours dans cette idée que le métier, il faut que ce soit un métier qui soit sous tension, ce qu'on va dire. C'est-à-dire que c'est des métiers où on est en recherche perpétuelle de personnes. Donc, c'est-à-dire que si on les forme dans ce métier-là, derrière, ils auront une embauche. Donc là, on a une personne, on va voir pour l'année prochaine pour la faire de l'aide à la personne. Voilà. Et actuellement, on est typiquement dans un métier sous tension. Les EHPAD sont en recherche de personnel, de toutes les structures, la DMR, etc. C'est vraiment des métiers sous tension. Et on a une autre personne donc, qui était aux expéditions. Et là, elle va peut-être se diriger vers de la logistique.
Très bien. C'est vous qui préparez les JO ?
Alors, c'est-à-dire, je les prépare. J'ai mon grand rêve. Donc, je fais de la course à pied depuis que je suis toute petite. Mon rêve, c'est, je pense, comme beaucoup d'athlètes, c'est de faire les JO. Donc, les JO de Paris, ça serait vraiment idéal. Moi, j'ai cette optique-là. Je m'entraîne tous les jours, voire deux fois par jour pour ça. Je suis encore loin d'être sélectionnée. Mais voilà, moi, c'est un peu comme eux. C'est-à-dire que moi, l'entraînement, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais par contre, c'est un moyen d'atteindre un objectif. Et mon objectif, c'est de faire les JO.
Génial. Merci beaucoup, Anne-Sophie.
Eh bien, de rien.
Merci, Emma, de m'avoir présenté Anne-Sophie. C'était très intéressant aussi d'avoir son point de vue et son retour d'expérience. Pour terminer cet épisode, j'aimerais que tu nous parles peut-être des futurs projets sur lesquels tu travailles. Alors, pas forcément de nouveaux produits, ni sans nous dévoiler toutes tes actus, bien évidemment. Mais voilà, comment est-ce que, après 11 ans dans une entreprise, 11 ans à travailler pour les tendances d'Emma, comment est-ce que tu arrives à te renouveler ? Est-ce que ça passe par l'embauche de certaines personnes, de nouvelles rencontres ? Voilà, comment est-ce qu'on fait évoluer son projet au fil des années ?
En fait, on le fait évoluer au fur et à mesure des rencontres. Aujourd'hui, alors, moi, sur le plan Emma, tout court, j'ai envie surtout de transmettre aujourd'hui, de dire à plein de gens, c'est possible. Il y a plein de sujets qui m'intéressent vachement. L'entrepreneuriat au féminin, par exemple, et de dire c'est possible. Ensuite, nous, on a une entreprise où... Aujourd'hui, chez les tendances d'Emma, on a 80% des gens qui sont en télétravail. Le Covid a accéléré, mais de toute façon, on a Sabrina qui s'occupe du service client qui est à Lyon. On a Marie-Alice qui, elle, est à Paris. Enfin, on a de toute façon créé une entreprise autour de la personne avant créer une entreprise tout court, en fait. C'est assez... Et donc, de dire aux gens, mais c'est possible, et de pouvoir témoigner. Ça c'est quelque chose d'important. On a des envies de montrer surtout que ce genre d'entreprise peut être exemplaire pour d'autres, peut être un moyen d'inspiration en fait, y compris pour des grands groupes qui ont d'autres moyens, qui ont d'autres possibilités, et de leur dire mais si nous on a réussi, tu vois, un peu comme le style du kit et cochou, si nous on a réussi à notre niveau et si on peut vous montrer que c'est possible et si on peut vous accompagner, si on peut être inspirant pour vous, venez et on vous accueille. Voilà. Donc cette envie, c'est de plus en plus de construire l'équipe et d'accompagner chacun, être très autonome en fait, dans ses missions, en disant, ça c'est le but qu'on a tous ensemble. Comment on vous accompagne à gérer, vous, en interne, votre propre équipe, vos propres missions, en étant vers un modèle d'holacratie, je sais pas si ça va être, voilà, d'entreprise consciente, ce genre de... Donc là, c'est notre envie, ouais, sur les tendances d'Emma, d'aller vers ce genre d'entreprise et de montrer que c'est possible. Au niveau des produits, c'est de plus en plus aller vers tout ce qui est upcycling, essentiellement. En fait, on n'a jamais... Depuis le début, il y avait beaucoup, beaucoup de produits qui étaient là. Il y en a, bien sûr, qu'on va développer et construire ou co-construire, parce que souvent, en fait, c'est les clients qui viennent nous voir, qui nous disent bah, « Tiens, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. » Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi une envie de se dire « Tiens, il y a 4 ans, par exemple, on a enlevé de tous les packagings tout ce qui est plastique, tout ce qui est scotch, tout ce qui est colle. » En disant, voilà, ça, c'est notre mission. Il y a 2 ans, on a totalement arrêté le papier de calage dans les cartons. En achetant une broyeuse à carton, faudrait que je te la montre d'ailleurs tout à l'heure. Et en fait, c'est ça, c'est de dire comment nous, dans nos petits gestes au quotidien, on peut garantir aux gens qui viennent acheter chez nous nos produits pour dire, bah tiens, nous, on a envie de nous aussi, être le petit colibri qui participe à réduire ces déchets. Comment on peut vous garantir que ce n'est pas simplement juste des produits, ce n'est pas simplement juste des gens, c'est aussi au quotidien tout un tas de petites améliorations. Donc on a plein de projets avec aller travailler avec des gens directement. On a tous nos packagings sont faits par Fred, qui est juste à côté, voilà, et ça, bah, ça fait partie des différents projets. Donc c'est plus les petits détails qui font finalement l'ensemble de l'entreprise, et d'aller toujours plus loin, de réfléchir ensemble aux opportunités, aux possibilités, d'aller vers l'upcycling, d'avoir des projets. Il y en a plein. Et cette belle envie, ensuite, on continue à avoir le siège social de l'entreprise qui est chez moi, à côté de donc chez moi, c'est à 1 heure d'ici. Et Tulin et Moirand restent un lieu dans lequel on se réunit assez régulièrement. Et il y a toute une zone qui s'appelle Centrale, pas à côté, où il y a des très, très belles entreprises françaises. Je pense notamment à Paraboot, je pense à Rossignol, je pense à Poma, qui sont des entreprises qui sont vraiment le fer de lance de la France dans des domaines autres. Quand on va découvrir ces entreprises, on s'aperçoit que depuis des années, ils font des choses absolument incroyables, formidables. Si nous, on peut effectivement travailler en collaboration avec eux et qu'eux nous apportent leur expertise d'années, et nous revendiquer. C'est-à-dire qu'on connaît souvent mal des entreprises comme celle-là. J'ai rencontré la petite fille du créateur de Paraboot qui m'expliquait ce qu'ils font depuis maintenant 80 ans chez eux. C'est juste extraordinaire en matière d'insertion. Et voilà, c'est tous ces éléments-là, quoi, en fait.
Ouais, tisser des liens et...
Ouais, et montrer, en fait, qu'on est de plus en plus nombreux, notamment en région Rhône-Alpes, on est vraiment beaucoup. C'est une très, très belle région sur l'aspect, comment dire, avant-gardiste. Je dis souvent, hein, n'oubliez pas que c'est d'ici qu'est partie la Révolution française. N'oubliez pas qu'en termes de résistance, on est plutôt pas mal dans la région.
Ouais, c'est une région très active.
Et c'est une région qui est hyper active. Et je pense sur un plan écolo, faut pas oublier Grenoble, ça a été la première ville verte de France aussi. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en région et montrer aux gens que notre région est magnifique, elle est super belle, elle est très dynamique. Et on va dedans et on le revendique à 10 000% en disant, mais voilà, quoi, en local... Il y a plein de belles choses à faire et voilà.
Génial. Merci beaucoup Emma pour cet échange très inspirant. C'était un vrai plaisir de te recevoir au micro et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer un nouvel épisode dans quelques années.
Avec grand plaisir.
Pour faire un nouveau bilan, ouais. C'est bien ça, un petit rendez-vous.
Un petit rendez-vous d'ici quelques années, ouais. Nickel.
À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour retrouver tous les liens utiles et des ressources complémentaires. Si vous souhaitez que je reçoive au micro une personnalité engagée que vous admirez, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et un commentaire sur la plateforme d'Apple Podcast en mentionnant le nom de l'invité que vous aimeriez écouter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.